je crois que l'heure est venue et je veux espérer que vos ateliers se sont bien passés, qu'il n'y a pas eu trop de bagarres entre vous et que nous allons passer une après-midi de détente spirituelle tout en étudiant la parole de Dieu. Je vous avais lu ce matin ce qu'une sœur qui en est à sa 55e année de profession religieuse avait écrit pour t'aimer sur la terre. Jésus, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et c'est vrai, plus j'avance, plus je sens que nous n'avons qu'un jour pour aimer Jésus sur la terre. Parce que dans le ciel, bien sûr, on l'aimera. Hein? Mais sur la terre, nous n'avons qu'un jour. Et le jour qu'on peut se promettre, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si même j'arriverai à la fin du jour. Hein? Mais en tout cas, ces heures-ci, je peux l'aimer tant que je suis en vie. Je n'ai, pour t'aimer Jésus sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et en allant visiter le petit cimetière là des sœurs, je pensais à toutes ces sœurs qui ont eu plusieurs aujourd'hui, mais qui l'ont aimé en voulant le suivre. Puis, vous avez été plongé dans l'Ancien Testament. Hein? Alors, est-ce que vous y prenez goût ou bien est-ce que c'est difficile? Je vous ai parlé d'une autre sœur qui m'a envoyé cette gentille carte et qui a même mis Mahanaïm sur celle-ci et qui m'écrit avec beaucoup d'affection depuis des années. C'est une sœur cloîtrée du précieux sang. Puis elle m'a mis cette petite image que je vous ai dit que je vous montrerai. Et c'est une pensée de Paul Claudel. Et les fruits passeront, les promesses des fleurs. Les fruits passeront, les promesses des fleurs. Donc, il y a des fleurs ici, hein. Mais un jour, il y aura les fruits. Et alors, ça m'a fait penser, vous voyez, on médite sur la route, même en allant au cimetière, là. Et je pensais à Paul Claudel. Et je me disais, ben voilà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et un livre que j'ai beaucoup aimé de Paul Claudel, c'est son témoignage final. Il dit qu'il a découvert l'Ancien Testament. Et il déplore que dans l'Église, son Église, qui était l'Église romaine, on ne parle jamais de l'Ancien Testament. Et il a une figure qui vous fera peut-être rire. Mais il dit, voyez-vous, pour moi, l'Ancien Testament, c'est la tsunamite qui a réchauffé les vieux os de David. Vous savez que David, étant devenu vieux, avait froid dans son lit. Alors ses conseillers lui ont dit, écoute, on va t'amener, non pas le dernier cri de, électrique, une couverture électrique, on va t'amener une jolie jeune fille, une jolie jeune femme, qui s'appelait, comment ? C'est l'ami, hein? Et Abisag, qu'elle s'appelait exactement, mais elle était tsunamite. Et il est dit que ça a bien marché, oui, elle l'a réchauffé, mais il ne l'a pas connu. Alors évidemment, des théologiens que j'ai connus, catholiques, ont dit, oui, Claudel peut bien parler de l'Ancien Testament et mettre Abisag en avant, mais il a oublié qu'il ait dit qu'il ne l'a pas connu. Alors Claudel n'a rien compris à l'Ancien Testament. Je me souviens de cette phrase que j'ai entendue ici même d'un théologien. Il ne l'avait pas connu. Mais je pense que Claudel a raison quand il dit « Il faut remettre l'Ancien Testament entre les mains de notre jeunesse ». Il disait cela bien avant de mourir, hein, parce qu'il avait été frappé qu'en Israël, le livre qu'on lit dans toutes les écoles, c'est la Bible. C'est le livre national. Mais ici, bien sûr, enfin, on fait un effort pour mettre la Bible entre les mains des jeunes, mais maintenant, c'est un peu tard. Eh bien, j'ai pensé à ce que Claudel disait, que l'Ancien Testament avait réchauffé vos vieux os. Je ne vous prends pas pour des vieux, je veux croire aussi que les os des jeunes ont été réchauffés par la lecture de l'Ancien Testament, que vous y prenez goût. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce de nous accorder le privilège de pouvoir en toute liberté lire ta parole. Et tu veux nous montrer comment un réveil peut être suscité par la lecture de ce livre que nous avons si souvent oublié, méconnu. C'est ce livre qui nous rappelle la vie de ces hommes de l'Ancien Testament, cette vie qui est porteuse d'un message, de telle manière que nous pouvons vivre avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David, avec tous les prophètes, non pas pour imiter leurs fautes, mais leur exemple de foi, de courage et d'amour. C'est la grâce que nous te demandons. Cet après-midi, ouvre-nous les Écritures et que l'abondance de ton esprit soit manifestée au milieu de nous, pour que, rentrant dans nos demeures, ceux qui nous connaissent le mieux, peut-être nos enfants, notre compagne, notre compagnon, puissent voir que nous avons été dans la présence, non pas d'un homme, mais dans la présence de Jésus et de Jésus seul. Amen. Alors, dans cet après-midi du 20 février, nous poursuivons notre étude du premier volet de notre thème général « Quels sont les caractères d'un réveil spirituel ?» Et je vous ai souligné ce matin que j'avais été poussé à étudier ce thème avec vous, parce qu'au Québec en particulier, comme aussi dans certains pays, on parle très facilement de réveil. Et on met ce mot un peu à toutes les sauces. Que ce soit l'heure de nous réveiller, nous en sommes convaincus. Hier soir, nous avons lu le texte, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Connaissant le temps où nous vivons, donc nous sommes des convaincus que, quant à l'heure, c'est l'heure. Parce que l'apôtre Jean disait déjà de son temps que c'était la dernière heure. Alors, si du temps de l'apôtre qui a vécu le plus longtemps, c'était la dernière heure, maintenant nous sommes dans les derniers moments de cette dernière heure, dans les dernières minutes peut-être de cette dernière heure. Quand il est dit que nous sommes dans les derniers jours, mais vous savez que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut toujours retarder. Un jour, c'est l'heure qui se termine. Alors, que le monde soit dans la nuit, nous le savons aussi, mais étant du jour, nous n'allons donc pas nous endormir, parce qu'on l'a lu, ceux qui dorment, dorment. La nuit, c'est la nuit. Mais nous, nous n'allons pas nous endormir. Nous voulons nous tenir dans la veille et revêtir les armes de la lumière parce que nous attendons le Seigneur. Et même si, comme les vierges, nous nous sommes endormis, nous avons de l'huile dans les lampes et quand on se réveille, on peut mettre l'huile dans les lampes et avoir de la lumière. Parce que nous allons à la rencontre de l'époux, comme nous le verrons demain. Alors, dès hier soir, nous étions donc prêts à entendre l'exhortation que Paul lançait aux Éphésiens en citant le prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 1, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Il faut qu'il y ait une différence entre nous, si nous nous prétendons chrétiens, ayant la vie, et ceux qui dorment, mais du sommeil de la mort spirituelle. Vous étiez autrefois morts dans vos fautes et dans vos péchés. Mais la parole du Seigneur a atteint nos consciences et nos cœurs et nous a vivifiés, de sorte que autrefois nous étions morts, mais maintenant nous sommes vivants par Jésus-Christ, qui est venu jusqu'à nous, qui nous a pris dans notre mort et qui, ressuscité, nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes, de sorte que si nous sommes sur la terre, nous savons pourtant que notre vrai domicile, il est où? Il est dans le ciel. Et qu'ici-bas, nous ne sommes que des voyageurs, des étrangers, nous ne faisons que passer ici-bas. C'est pourquoi nous ne nous attachons à rien des choses terrestres, parce que les choses visibles ne sont que pour un temps. Et qu'est-ce que nous avons maintenant devant les yeux? Les choses invisibles qui sont éternel. C'est pourquoi même si le Seigneur n'est pas revenu et que nous devions passer par la mort n'est plus le roi des épouvantements, mais au contraire la monture qui va nous conduire de l'autre côté du fleuve auprès du Seigneur Jésus. De sorte que même en passant par la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte, car le Seigneur est avec nous. Et il est avec nous tous les jours, et si même nous devons envisager, à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, eh bien, notre départ, ce n'est plus une catastrophe. Car quand Jésus est vraiment aimé d'un véritable amour, lui qui nous a aimés le premier, et qui nous a aimés jusqu'à la mort, on ne craint plus la mort qui va nous réunir avec le Seigneur. C'est ce que Paul disait. Absent du corps, je suis présent avec le Seigneur. Mais tant que je suis dans le corps, dans la chair, je suis loin, physiquement évidemment, du Seigneur. C'est pourquoi il disait, ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Si je dois vivre, il en vaut la peine, parce qu'on a un témoignage à rendre pour Jésus. Je n'ai sur la terre qu'aujourd'hui pour t'aimer Jésus. Alors ça vaut la peine, hein. Mais si je devais mourir, eh bien, ce serait un gain, car être auprès du Christ, cela est de beaucoup le meilleur. Loin des luttes, loin des tentations, loin du péché, loin des occasions de chute, être auprès du Seigneur, quel bonheur. C'est pas encore la gloire, car la gloire, nos bien-aimés qui nous ont devancés, ne l'atteindront que dans leur corps de résurrection, comme nous aussi, quand le Seigneur viendra, si nous sommes vivants, nous serons transmués et nous aurons des corps glorieux, semblables au Seigneur, des corps immortels. Les vivants revêtiront l'immortalité et les morts en Christ, ressuscitant, revêtiront l'incorruptibilité. Ils ont été semés corruptibles, leur corps est dans la poussière, mais ils ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants qui sommes des mortels, nous revêtirons l'immortalité, de sorte qu'il n'y aura plus de mort à envisager pour ceux qui auront été enlevés. C'est pourquoi la venue du Seigneur, qui doit atteindre en tout cas une génération de la terre, je ne sais pas quand, je ne dis pas le jour, mais tant que vous êtes en vie, vous pouvez penser que vous serez peut-être de cette génération. Et ça vaut quand même la peine, hein? Malgré votre préarrangement, et vous n'en aurez peut-être pas besoin, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous de cela. Nous attendons Jésus qui va venir. Alors, nous voulons être réveillés. Et ce matin, nous avons souligné que un réveil présupposait le sommeil. Et on pourrait vous parler longuement de tous les sommeils qu'on trouve dans les Écritures. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ce que j'ai voulu souligner ce matin, c'est que ce réveil, c'est une action de l'Esprit de Dieu. On ne fabrique pas les réveils. C'est un temps où l'Esprit de Dieu agit en puissance et opère. Et quelquefois, il opère dans plusieurs pays à la fois, sans que les instruments de réveil que Dieu emploie se soient connus. Il y a eu, après le Moyen-Âge, après la grande noirceur, il y a eu ce qu'on a appelé la Réformation. Ce n'est pas pour vous parler de la Réformation que je cite ça, mais il y a eu des catholiques qui étaient tellement outrés et tellement peinés de voir à quoi en arrivait la Sainte Église, qu'ils ont protesté auprès du pape pour qu'il y ait une réforme dans les mœurs et qu'on revienne à l'enseignement apostolique. L'Église était bien catholique, c'est-à-dire universelle. L'Église se prétendait apostolique, mais on se rendait compte, et ça c'était des catholiques, des moines même, qui se rendaient compte qu'on ne suivait plus l'enseignement des apôtres. Car quand on envoyait des gens sur les foires et les marchés du monde pour vendre des indulgences pour se payer le ciel, c'était plus l'Évangile. Hein. C'était plus la doctrine de Saint-Pierre. On peut se réclamer de Saint-Pierre et ne pas mettre en pratique ce qu'il dit. Pierre disait dans l'Écriture, ce n'est pas par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul avait montré que ce n'était pas en faisant au dernier moment des bonnes œuvres ou en se rachetant, en donnant tout notre argent à l'Église, qu'on pouvait être sauvé, mais en ayant reçu dans la foi le Seigneur Jésus comme sauveur, qui avait donné sa vie pour nous racheter. Le sang de Jésus, c'est sa vie. Et justement ici, j'ai une lettre de la supérieure du précieux sang, qui est une très chère amie pour moi, eh bien, qui témoigne de cela. Et vous voyez, elle dit juste une chose que je trouve très remarquable. Oh, peut-être que je ne vais pas vous la lire, alors, puisque je ne retrouve pas ce passage, mais elle montre que on sent que je crois au précieux sang du Christ pour pouvoir accomplir le ministère que je présente, que je poursuis. Et elle dit ceci, « Par la puissante efficacité du sang de Jésus, je demanderai à Dieu pour les jours de Mahanaïm à Châteauguay, que vous puissiez connaître et aimer de plus en plus les divines écritures et que tous ceux qui seront vos heureux auditeurs soient de plus en plus avides de vivre la parole de Dieu. » Ben voilà, hein. Je vous dis qu'il y a des sœurs qui brillent pour cette retraite. Et qu'est-ce qu'elles demandent ? Que vous avez demandé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir un amen? N'est-ce pas? Et c'est ça qui est réjouissant. Alors, n'ayez pas des œillères. Soyez ouverts. Marchez dans un chemin étroit. Ayez des convictions, mais ayez un cœur large qui englobe tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, je crois que c'est des témoignages qu'il est précieux d'entendre. Et j'avais encore, puisque j'y suis ici, dans l'autre lettre où cette sœur dit qu'elle n'a qu'un jour pour aimer Jésus, elle écrit à notre si bon ami le pasteur Racine, et à son incomparable épouse. Alors ça, je vous dis ça aussi pour elle, puisque vous ne pensiez pas qu'on est en bagarre, hein, parce que tout à l'heure, son incomparable épouse, hein, qui ne dit pas toujours oui. Alors, bon. Alors, voilà qui montre qu'on peut avoir de la communion les uns avec les autres. Et c'est vrai, hein, c'est écrit, vous pouvez contrôler. Alors, nous revenons maintenant à nos moutons. Je vous ai dit que j'avais eu à cœur de parler de réveil parce qu'on met vraiment maintenant le réveil à toutes les choses. C'est une action de l'Esprit de Dieu et là, sa source dans la fidélité de Dieu à ses promesses, mais nous avons mis entre parenthèses qu'il était aussi fidèle à ses menaces. Hein. Si Dieu dit que le jugement va venir sur le monde, c'est qu'un jour il va venir. Hein. Mais tout en jugeant, il voudrait en même temps sauver. Mais s'il y a un réveil, c'est à cause de la fidélité de Dieu à ses promesses, et non d'abord à cause de la spiritualité des âmes qui bénéficieront de ses promesses. Et je vous ai parlé du peuple d'Israël visité en Égypte, n'est-ce pas, et bénéficiaire de cette traversée de la mer Rouge. Mais est-ce qu'ils étaient si spirituels, ces gens-là? Non, n'est-ce pas, vous le savez bien, à peine avoir été délivrés miraculeusement de la mer Rouge, quand ils se sont trouvés de l'autre côté du désert, et qu'ils ont vu que l'eau de Mara était amère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié la première délivrance, parce que faire un passage au milieu de la mer Rouge, c'était une délivrance. Et au lieu de dire, eh bien, puisque tu nous as délivrés jusqu'ici, tu vas encore maintenant nous délivrer dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer et à regretter quoi? Les oignons et les eaux qu'ils avaient en Égypte. Voilà. C'est ça notre nature. Israël, disait Goethe, c'est notre histoire et c'est vrai de vrai. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire, c'est mon histoire, je me vois là-dedans, dans ces gens-là qui murmurent. On est toujours prêt à murmurer, au lieu de dire au Seigneur, tu m'as délivré jusqu'ici, comment vas-tu t'y prendre cette fois-ci, hein, pour plus loin. Et alors, on va de délivrance en délivrance. Mais si je parle de délivrance successive, ça veut dire qu'il y a des épreuves successives. On passe d'une épreuve dans une autre, mais on est enrichi par les délivrances que le Seigneur opère pour nous. Alors, souvenez-vous des délivrances du Seigneur, et vous ne serez pas découragés. Et même si l'avenir vous paraît tout noir, dites-vous que lui, il est la lumière, car il l'a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et vous verrez sa lumière resplendir sur votre route. Ensuite, après avoir parlé de la source de tout vrai réveil, nous avons parlé des instruments matin, que Dieu emploie pour susciter un réveil. Ce sont donc des hommes qui ont été choisis par Dieu. Abraham a été choisi dans le paganisme. Dieu l'a sorti du paganisme. Il lui a donné une révélation et il l'a employé. Et quant à l'heure du réveil, eh bien, ce n'est jamais l'homme qui décide que c'est l'heure, mais c'est Dieu qui nous dit. Et nous avons entendu pour nous que c'était l'heure. Je vous ai cité ce matin Abraham. En passant, n'est-ce pas, il a reçu la certitude que son peuple, alors qu'il était encore seul et que sa vieille Sarah n'était plus capable d'avoir un enfant, Dieu lui dit que cette Sarah lui donnerait un enfant. Et il lui dit que après 400 ans, le peuple qui naîtrait d'Isaac, de cet enfant, qui faisait rire tout le monde, puisque Isaac veut dire rire, tout le monde a ri, quand Dieu a promis qu'il y aurait un Isaac, eh bien, 400 ans après, il y a eu Moïse. Dieu était fidèle à ses promesse malgré l'état du peuple. Et vous savez, les fils de Jacob n'étaient pas très reluisants. Vous savez ce qu'ils ont fait à leur frère? Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur frère? Ils l'ont vendu. Et c'était des fiefs et menteurs. Pendant 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jacob? Qu'il était mort, n'est-ce pas? Alors, c'est pas très beau. Eh bien, même à l'égard de ces gens-là, Dieu a été fidèle à ses promesses. Et Joseph, au lieu de cultiver de la rancune contre ses frères, il leur a dit, mais ne vous en faites pas trop de m'avoir vendu. C'était pour votre salut. Ça, ça vaut quelque chose. On n'est pas sauvé par les œuvres, hein. Mais en se donnant aux autres, on peut les sauver, être le moyen de leur salut. En se laissant faire par Dieu, on devient le moyen de salut pour les autres. Si Joseph avait rué dans les brancards, avait dit, ben moi j'en ai assez, puis quand la femme de Potiphar lui a offert tout ce qu'elle avait comme charme, eh bien, si Joseph avait dit, ben je peux bien me servir après ce que mes frères ont fait, puis mon vieux père, tout ce qu'il m'a raconté, ben tout ça c'est de l'histoire sainte, mais pas pour moi. Je suis dans l'épreuve, je suis un homme comme les autres, j'ai aussi des besoins sexuels, je peux bien aussi me servir. Eh bien non, il n'a pas fait ça. Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Coucher avec une femme mariée, c'était un grand mal pour Joseph. Et pourtant, il avait quitté son père à l'âge de 17 ans. Allez parler maintenant de ça à notre jeunesse. Eh bien, c'est ça qu'il faut revenir, c'est à cela qu'il faut revenir. Il faut que nous soyons remplis de cette parole, qu'elle se fixe dans notre sensibilité et que nous ayons ces réactions qui sont des réactions saines et qui peuvent donner à nos enfants, à nos petits-enfants, une autre idée que ce qu'on leur enseigne à l'école avec tout ce que l'on veut mettre même dans les écoles, ces espèces de boîtes, de condoms où ils mettent 25 cents ou je ne sais pas plus pour l'avoir et puis pour faire des expériences sexuelles. C'est une abomination, hein. Nous sommes dans ces jours-là et c'est pourquoi nous voyons que le temps est court. Pour t'aimer Jésus, je n'ai qu'aujourd'hui. Et pour montrer votre amour à vos enfants, le vrai amour que vous avez pour Jésus, vous n'avez qu'aujourd'hui. Alors, acceptez toutes les souffrances qui peuvent découler de votre attitude, mais sachez que votre témoignage sera béni. Je sais que c'est difficile pour plusieurs, mais si vous tenez ferme, comme Joseph, ayez toujours l'exemple de Joseph. Joseph a accepté de tout souffrir pour sauver sa famille. Et il a sauvé tous les siens, son vieux père, mais aussi ses frères. Un Ruben qui avait couché avec une des femmes de son père, un Siméon et Lévi qui étaient des violents et qui avaient massacré tous les Sichémites, un Judas qui couchait avec sa belle-fille, c'était pas des gens très reluisants, hein. Avec, j'invente rien, tout ça c'est dans la Bible. Eh bien Dieu les a quand même aimés. Vous trouvez pas que c'est merveilleux? C'est pour cela que je dis que un réveil, les bénéficiaires d'un réveil, bien, c'est pas des gens nécessairement extrêmement spirituels, hein, mais c'est la grâce de Dieu qui opère, parce que c'est l'heure de Dieu. Et quand l'heure de Dieu est venue, voyez-vous, Dieu est tellement amour qu'il passe sur tout cela pour nous vaincre par l'amour, parce que les fils d'Israël ont finalement été vaincus par l'amour. Quand ils ont vu l'amour de Dieu, l'amour de Joseph pour eux, ils ont pleuré. Et ils sont devenus les chefs de ces tribus. C'est quelque chose de magnifique. Mais j'ai dit ensuite qu'une fois dans le pays de Canaan, ces gens qui avaient connu ce merveilleux réveil à minuit en Égypte, hein, quand l'ange destructeur frappait les aînés des Égyptiens, ça a été le réveil pour Israël qui a pu sortir de l'Égypte. Rien n'a empêché les Israélites de s'en aller. Donc, ils ont eu un véritable réveil en quelque sorte, mais c'était l'heure de Dieu. une fois que Moïse a obéi, mais j'ai montré qu'avec Moïse, quand il a voulu aller trop vite, avant l'heure, c'était l'échec. Mais une fois qu'il a appris la leçon, vous savez, à 80 ans, on peut encore apprendre des leçons. C'est encourageant. Moïse avait 80 ans quand il a été visité par Dieu et qu'il a eu la vision du buisson ardent. Ne dites pas, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour que le Seigneur me parle. Il peut encore vous parler quand vous avez les cheveux blancs. Tous les jours, le Seigneur parle. Et une fois dans le pays d'Israël, que Josué a partagé à toutes ses tribus, eh bien voilà qu'on est retombé dans l'idolâtrie. Ce peuple qui connaissait un Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, le voilà qui retombe dans l'idolâtrie. Et je vous ai dit que ceux qui le pouvaient avaient qu'à lire le livre des Juges. C'est seulement pour vous montrer comment s'opère un réveil. Vous voyez, au chapitre 4 du livre des Juges, ils sont dans le pays d'Israël. Ils ont toutes les délivrances derrière eux. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaisait à l'Éternel. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabez, roi de Canaan, etc. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors justement, c'est dans ces moments-là qu'on dit au Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, nous sommes dans la détresse. Mais pourquoi le Seigneur ne sommeille ni ne dort? Ce ne serait pas toujours nécessaire que nous soyons dans la détresse. Car quand on n'est pas dans la détresse, qu'est-ce que nous devrions faire au lieu de crier à l'Éternel? Des supplications, des louanges. Nous devrions avoir une vie de louange. La louange est continuellement sur mes lèvres. Mais la louange, ce n'est pas simplement parce que nous avons eu des délivrances, mais c'est parce que c'est vrai que Dieu est digne d'être loué, que Dieu est digne d'être adoré. C'est ça l'adoration. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu et je l'adore. Il n'a pas besoin de me bénir, il n'a pas besoin de me donner des bienfaits. Parce que ça, c'est des prières de reconnaissance. Mais j'ai un Dieu qui est mon Dieu. Et parce qu'il est mon Dieu, je me prosterne devant lui et je l'adore. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas une statue, c'est le Dieu vivant et vrai. Mais les enfants d'Israël, ils criaient à l'Éternel quand ça allait mal. Mais ils avaient fait le mal d'abord. Alors, ils étaient châtiés, et puis, dans leur détresse, ils criaient. Et il est dit, verset 4, « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, son nom est marqué, le nom de son mari, était juge en Israël. » La position de juge en Israël aurait dû revenir à qui, normalement, de ce temps-là? À un homme, disons. Mais les hommes étaient désendormis, les hommes étaient préoccupés d'autre chose, alors Dieu a saisi une femme qui était dans ses pensées, comme il a saisi un jour Marie, la jeune fille de Nazareth, et qui était prête pour dire son oui au Seigneur. Elle se laissait faire. Ben, c'est toujours ça. Joseph s'est laissé faire. Joseph, fils de Jacob. Marie, mère de notre Seigneur, s'est laissé faire. Et Déborah, elle aussi, elle s'est laissé faire par Dieu. Mais elle ne se sentait pas toujours à sa place. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Vous voyez que c'est pas elle qui se déplaçait en grande pompe pour dire, ben voilà, je suis le juge, je viens pour vous juger. Non, c'est les enfants d'Israël qui venaient sous son palmier. Elle restait dans une position d'humilité. Et si on avait besoin d'elle, on pouvait la trouver, elle était disponible, mais elle était sous son palmier. Et il fallait se déplacer pour aller la trouver. Alors, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, qui était le général des armées, et elle lui dit ceci, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali, des enfants de Zabulon, j'attirerai vers toi au torrent du Kisson,
Sisra, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alors Barak lui dit, voilà le général qui parle à une femme. Si tu ne viens pas avec moi, je vais pas, mais si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. J'ai besoin de maman. C'est pour ça qu'elle est appelée une mère en Israël. Parce que les hommes, vous savez, souvent ils ne sont pas forts. Et ils ont besoin de la femme. Et c'est très beau. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak. Mais vous voyez, elle y est allée à son corps défendant. Elle n'a pas dit, c'est moi qui prends la tête des armées, c'est moi qui suis le général. Elle a laissé à Barak sa place, mais elle est allée pour le soutenir, en quelque sorte dans son ombre, comme Marie a été toujours dans l'ombre de son fils. Voilà comment une femme peut soutenir son mari ou travailler dans le peuple. Elle ne veut pas prendre la première place. Quelquefois, elle lui est donnée cette place à cause de l'incurie des hommes. C'est toujours parce que les hommes ne sont pas à leur place ou ne sont pas capables que Dieu suscite vraiment des femmes parmi le peuple. Mais ce n'est pas parce que la femme est inférieure, ce n'est pas vrai. Elle est l'égale de l'homme, mais elle lui est complémentaire. Et il y a un ordre divin, il y a une hiérarchie qui ne vient pas de la chute. Dans la création, Dieu a fait l'homme, puis ensuite la femme. Et comme nous le disait une chère sœur, pour mettre fin à toutes nos discussions de cet après-midi, le mieux, c'est que l'homme et la femme soient unis. L'homme et la femme, être un couple vraiment uni, servir ensemble. Et même si on doit travailler avec une sœur, eh bien, que nous soyons dans ce respect mutuel et que nous comprenions que nous sommes complémentaires. Il y a un ministère qui revient à la femme et il y a un ministère qui revient à l'homme. Et quand l'homme veut faire le ministère de la femme, eh bien, il n'est pas à sa place. Et puis, quand la femme veut prendre absolument la place de l'homme, elle n'est pas non plus à sa place. Vous me direz n'importe quoi, c'est quelque chose qui est divin. Et c'est un ordre divin. Et la femme qui se soumet à cet ordre, elle est bénie entre toutes les femmes. Oui, elle est bénie. Mais si vous voulez faire autrement, vous pouvez faire autrement. Alors ne vous plaignez pas. Et vous connaissez toute cette histoire-là. Le grand général Sisra a été battu. Quand vous connaissez le Tabor et que vous pensez que toutes les armées du roi de Hatsor, de la Galilée, étaient là avec des chars, une multitude de chars. Ils ont envahi cette plaine de Megiddo, et les pauvres Israélites étaient sur le mont Tabor. Et comment est-ce que la victoire a été donnée à Israël? Eh bien, on l'a dans les Écritures. Vous avez tous ces chars de fer, des chevaux et tout ce monde-là, des milliers, des milliers. Et tout à coup, le ciel tonne, la pluie arrive et le torrent du Kison que nous connaissons bien se gonfle en quelques instants et c'est l'inondation partout. Alors le général Bou prend la direction des opérations, tous les chars sont embourbés et qu'est-ce que les soldats veulent faire dans des chars embourbés avec leurs chevaux qui piaffent dans la boue, eh bien, c'est la défaite complète. Le Seigneur a opéré. Et le général Sisra Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû s'enfuir comment? À pied. Où? Vers une tente là-bas, qui est un peu isolée. Et c'est une femme qui sort, qui s'appelle Jaël, et qui est très polie, qui l'invite, il lui demande, il est fatigué, il n'en peut plus, de le cacher dans la tente. Elle l'accepte, et puis il a un peu froid. Elle lui met une couverture, elle est gentille quand même. Puis il lui demande de l'eau, et qu'est-ce qu'elle lui sert? Du lait dans un bon bol. Et puis il lui dit encore, si quelqu'un me cherche, dis-lui qu'il n'y a personne. Alors elle se met à l'entrée de la tente. Et puis quand il s'endort, parce qu'il y a le sommeil de 6 heures, j'ai parlé de différents sommeils, le sommeil de Noé, mais il y a aussi le sommeil de 6 heures. Et ce sommeil de 6 heures, qui a si bien commencé, ce sera un sommeil perpétuel. C'est un sommeil de mort. Il ne se réveillera pas. Pas de réveil pour Sisera, le général ennemi d'Israël. Elle prend un pieu. Ce n'est pas une femme sanguinaire. Le pieu de la tente. Elle prend le maillet. Elle va tout doucement. Elle a du courage. On dirait, mais ce n'est pas un exemple à donner. Non, mais ça se passe. Dieu a ses moyens. Et alors voilà mon Barak qui arrive. Il est vainqueur. Le grand Barak, général des Hébreux. Puis Jaël le voit. Puis elle lui dit, viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. L'ennemi était mort, couché au pied de Jaël. Ce n'est pas Barak qui l'a tué. Ce n'est pas Barak qui était le vainqueur. C'est une femme. Barak n'a pas eu cet honneur. Il a été le vainqueur, oui, dans la bataille, mais ce n'est pas lui qui a eu l'honneur d'abattre l'ennemi d'Israël. Et alors, c'est après cela que vous avez ce morceau merveilleux que j'aimerais pouvoir méditer avec vous, car c'est un des plus beaux morceaux de l'Écriture. Le chapitre 5, le cantique de Déborah. Réveille-toi, Déborah, puis elle a chanté. Comme je vous l'ai dit ce matin, elle a chanté avec Barak. Il n'était que les deux. Et alors, on a tout un tableau de l'histoire d'Israël dans ce chapitre 5. Des chefs se sont mis à la tête du peuple d'Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, les princes des autres pays. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de chez... Alors, vous voyez, elle revient en arrière. Elle pense à ses premières délivrances du temps de Moïse dans les montagnes d'Édom et du Sinaï. Quand tu t'avanças des dons, la terre trembla, les cieux se fondirent, quand Dieu a donné la loi, etc. Ce Sinaï, verset 5, devant l'Éternel, le Dieu des armées. On revient aux autres délivrances du passé. Quand on a eu une délivrance, on pense à d'autres délivrances. Elle ne pense pas qu'à sa victoire, à elle. Elle pense à ce Dieu qui a toujours donné la victoire à ceux qui s'attendaient à lui. Et verset 6, au temps de Shamgar, c'était l'ancien juge, fils d'Anat, au temps de Jaël, elle met Jaël en avant, les routes étaient abandonnées. Pourquoi est-ce qu'on abandonne les routes? À cause de la guerre. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Il y avait l'insécurité sur les chemins. Les chefs étaient sans force. C'est bien un peu ce qui se passe maintenant. Les chefs des nations sont sans force. En Israël, sans force. Quand je me suis levé, vous voyez, pourquoi est-ce qu'elle s'est levée? C'est parce que les chefs étaient sans force. Alors une femme se lève, les chefs étaient sans force. Alors je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Et c'est beau cette expression, comme une mère en Israël. Une mère qui aime ses enfants, tous ses Israéliens. Elle est comme Moïse, elle est dans l'esprit de Moïse. Plutôt mourir, plutôt être... pas à ma place, mais qu'eux soient sauvés. Elle sait très bien que ce n'est pas à la femme de prendre la direction, mais elle s'est levée, elle, par amour pour Israël. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, cet Israël? Il avait choisi de nouveaux dieux. Vous rendez-vous compte? Après avoir connu le vrai Dieu qui délivre, ils étaient retombés dans l'idolâtrie, dans le paganisme. Alors, quand on choisit de nouveaux dieux, la guerre était aux portes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est Jésus? Les dieux de notre jeunesse, qu'est-ce que c'est? C'est des sportifs, c'est tout ce que vous voulez, c'est des artistes. Alors, on ne voyait ni bouclier ni lance chez les 40 000 d'Israël. Ils n'étaient donc pas prêts. Mon cœur est au chef d'Israël et l'avait à cœur. Et voyez-vous, c'est ça, avoir des hommes et des femmes qui ont à cœur d'autres âmes, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Il y a des gens qui sont prêts à combattre. Alors mon cœur, il est avec ces gens qui sont prêts à combattre, quelle que soit leur origine. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez des ânesses blanches, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur les routes, chantez. Voilà tous les bénéficiaires de cette victoire, hein, et qui n'ont pas même combattu, mais qui en bénéficient. Bien, vous devriez aussi louer le Seigneur. Parce qu'il y a quelques hommes qui travaillent, qui souffrent peut-être, mais d'autres qui en bénéficient après coup. Alors on les a critiqués, puis tout d'un coup, quand on a la victoire, oh, on est bien content. Hein. Tous ceux qui n'ont pas... Il y avait de bons sièges et de grands tapis, et puis qui maintenant marchaient sur la route sans crainte, tandis qu'avant vous n'osiez pas marcher, eh bien, chantez aussi. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, etc. Et vous voyez, ensuite, tout à coup, elle dit, réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Puis elle exhorte Barak, lève-toi Barak, et amène les captifs fils d'Abinoam. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Alors, un reste du peuple, triompha des puissants. Vous voyez, c'est toujours un reste. Dieu ne travaille pas avec la multitude, il travaille avec un petit reste. L'Éternel donna la victoire sur des héros, puis elle dit d'où ils sont venus, etc. Et puis, et elle dit ensuite au verset 20 que c'est des cieux ont combattu de leur sentier les étoiles combattir contre Sisera. Les étoiles, c'est sont dans les cieux. Hein. Donc il y a eu un secours surnaturel, un secours divin pour la délivrance d'Israël. Le torrent du Kishon les a entraînés, et c'est là que vous voyez comment il y a eu la défaite de toute cette armée avec les chars qui se sont embourbés, le torrent des anciens temps, le torrent du Kishon qu'a connu aussi Élie. Mon âme foule aux pieds les héros. Et puis, il y a la suite. Puis alors, béni sois-tu, femme de Héber, le Kénien. Puis il y a la mort de Sisera qui est racontée. Puis la mère de Sisera qui attend le retour de son fils qui, hélas, a péri. Et le dernier verset, 31, périssent ainsi tous les ennemis, tes ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment. J'espère que vous avez souligné votre verset. Hein. Ceux qui l'aiment, qui aiment qui? Éternel. Ils sont comme le soleil quand il sort dans sa force. C'est beau ça, hein? Voilà une perle que vous avez là. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il sort dans sa force. Et quand vous lisez l'Apocalypse au chapitre 1er, quand Jean a la vision du Seigneur de gloire, il est dit que son visage était comme le soleil quand il sort dans sa force. Oui, comme le soleil. Alors, nous pouvons devenir semblables à Christ si nous l'aimons et si nous le suivons. Alors, vous voyez que Dieu peut se servir, alors ça c'est la réponse à une question, est-ce qu'il peut se servir d'une femme? Bien sûr, hein, si elle est dans sa main et prête à tout. Alors, après Déborah, je vous ai dit que ce qui caractérise un réveil, c'est toujours la louange. Hein. Il y a eu, après ce réveil du peuple et cette victoire, la louange, un cantique, comme il y a eu le cantique de Marie dans le chapitre 15 de l'Exode. Et alors nous retrouvons la louange aussi au temps des réveils qui ont eu lieu en Juda. Alors là, nous arrivons aux portions de l'écriture que je vous ai demandé de lire et que vous avez lues au temps de Josias. Mais si vous aviez eu le temps, je vous aurais demandé de lire les chapitres précédents, mais ça n'aurait pas marché, au temps d'Ézéchias, au chapitre 29. Ézéchias était le fils de qui? D'un roi impie, d'un roi qui s'appelait Akaz, et qui avait fait fermer les portes du temple pour qu'on n'adore plus le Seigneur, et qui avait rempli Jérusalem d'autels à toutes les idoles des nations païennes. Eh bien, cet homme, Ézéchias, qui avait eu un si mauvais exemple par son propre père, quand il est devenu roi à 25 ans, et il a régné 29 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait qui? David, son père. On saute toutes les générations pour revenir à David. Il n'est pas dit comme l'avait fait Akaz. Akaz avait déshonoré le Seigneur qui lui avait pourtant donné des signes de sa grâce et de son amour. Et alors, depuis le verset 3, vous avez ce qu'on appelle le réveil au temps d'Ézéchias, ce qu'est un vrai réveil. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, puisqu'on les avait fermées. La première chose, il ouvre les portes de la maison. Mais il les répara. Il fit venir les sacrificateurs, les lévites qu'on avait renvoyés, et il les assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, le grand nettoyage du temple, comme on devrait faire le grand nettoyage de certaines églises. Enlevez tout ce qui n'est pas du Seigneur. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils ont tourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique qui éteint les lampes, et ils n'ont plus offert à Dieu les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation, etc. Et dans un chapitre du livre des rois, vous avez aussi tout ce récit, et on pourrait souligner 7 points qui caractérisent le réveil d'abord d'Ézéchias. Il a été réveillé pour lui-même, il a été un instrument de réveil pour son peuple, il a rétabli les chantres qui louaient le Seigneur, et il a ramené vraiment un peu de vie dans le culte de l'Éternel. Mais vous savez qu'il a eu une terrible épreuve à un moment donné de sa vie. Il est devenu malade. Et dans sa maladie, plutôt que d'accepter d'aller vers le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la guérison. Et il s'est mis à pleurer, il a tourné sa tête contre la muraille, puis il a prié, Seigneur, Seigneur. Puis le Seigneur l'a exaucé. Esaïe est revenu lui dire, après lui avoir dit, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Eh bien, Esaïe revient et lui dit, le Seigneur a entendu ta prière, et il te dit, j'ai vu tes larmes, et il ajoutera 15 années à tes jours. Eh bien, mon pauvre Ézéchias, si au moins il était parti à ce moment-là, c'était le bon moment. Mais 15 ans plus tard, le pauvre Ézéchias, il avait foiré. Vous voyez, on peut être un homme de réveil, mais il ne faut pas vouloir vivre plus longtemps qu'il ne faut.
que je vive longtemps, que je vive d'une façon ou d'autre, l'important c'est que tous mes jours soient au Seigneur. Et il est dit que dans le sein maternel, nos jours, eh bien, ils étaient inscrits quand il n'y en avait encore aucun. J'aime beaucoup ce psaume 139. Bien, souvenez-vous de l'exemple d'Ézéchias. Et ce pauvre Ézéchias, après sa maladie et sa guérison miraculeuse, évidemment, des gens sont venus le voir, et en particulier une délégation de Babylone. Et notre cher Ézéchias, flatté d'avoir la grande visite, comme on dit au Québec, il a montré tous les trésors qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, tout l'or qu'ils avaient, et vous trouvez cela dans ces chapitres, vous les avez, ou non, vous ne les avez pas lus, puisque je ne vous ai pas demandé de les lire, mais on trouve dans Ésaïe un résumé au chapitre 38, il y a trois fois ce récit de la visite des dignitaires de Babylone, qui viennent apporter les souhaits du roi de Babylone à Ézéchias, puisque il a été guéri. Et alors, chapitre 39. En ce temps-là, Mérodac Baladan, Esaïe, fils de Balaban, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient les choses de prix, l'argent et l'or. Quand quelqu'un de nouveau vient dans votre maison, vous aimez tout montrer ? Moi, je ne sais pas. Il y en a qui trouvent, je vais vous montrer ma maison, tout ce qu'il y a dedans, ça dépend. Mais souvenez-vous de cet exemple-là. Il n'y a rien à cacher, c'est pas ça, mais il faut faire attention. D'abord, ce n'était pas Ézéchias, c'était le trésor d'Israël, le trésor de Juda. Il a montré les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Alors les serviteurs de Babylone qui voient ça, ils disent, ah, il a quelques richesses ce roi, hein, il est puissant, mais ça met en avant la chair d'Ézéchias, qui n'avait pas voulu mourir 15 ans plus tôt. Alors, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias, et lui dit, verset 3, qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Et vous voyez là comme il dit, mes trésors. Est-ce que ce sont ces trésors? Non. C'est les trésors de tous, du peuple, c'est les trésors de Dieu. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ça s'est réalisé. Qui est-ce que vous pouvez nommer? Daniel, Sadrach, Mesach et Abednego. Hein? Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Du moment que ça n'arrivera pas pendant ma vie, la parole est bonne. Tant pis pour les autres. Vous voyez, on peut être homme de Dieu et n'avoir pas l'attitude que l'on devrait avoir. Comme on a besoin de veiller, que celui qui se croit debout prenne garde, qu'il ne tombe. Vous voyez, on peut être un instrument de Dieu à un moment donné, et puis tout à coup, faiblir. On doit toujours veiller. Alors, ça c'est un des réveils qu'il y a eu au temps d'Ézéchias. Alors, ça répond à cette question, est-ce qu'un homme qui était un instrument de Dieu, est un être infaillible? Non. Hein? Alors, vous avez lu maintenant l'histoire de Josias. Josias, donc,
Ézéchias, qui avait été pourtant bien fidèle dans beaucoup de choses, eh bien, quand il est mort, qu'est-ce qui lui a succédé comme fils? Manassé, au chapitre 33. Et Manassé avait eu quand même l'exemple de son père, qui spécialement dans les premières années de son règne, avait été le compagnon d'Ésaïe, il avait Ésaïe comme conseiller, le prophète. Alors Manassé avait vu des choses merveilleuses. Eh bien, malgré l'exemple de son père Ézéchias, Manassé a été un homme abominable, seulement. À la fin de sa vie, il s'est repenti, il s'est humilié. Et alors, au verset 20 du chapitre 33, Manassé se coucha avec ses pères. Vous voyez, verset 18. Je veux dire depuis le verset 18. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, après j'ai sauté tout ce qu'il avait fait de mal, hein. Après sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, il exauce même Manassé, ses péchés, ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux, où il dressa des idoles et des images taillées, avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osée. Mais vous voyez, ce qu'on a fait avant, c'est quand même écrit. Il y a des rapports qui sont faits sur nous. Et c'est pourquoi, hein, faut pas prendre, comme je l'ai dit, le sang de Christ pour de l'eau de Javel, hein, qui enlève tout. Il expie vos péchés, hein, mais il y a des marques. Samson est mort aveugle. Et il y a le tribunal de Christ. Et nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Tout est écrit. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans, verset 21. Lorsqu'il devint roi, il régna 2 ans à Jérusalem. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il avait vu son père s'humilier après toutes ses fautes, ça ne lui a pas parlé. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père, mais avant son retour à Dieu. Hein, il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père, et il les servit. Vous voyez l'exemple qu'on a donné à nos enfants, hein, ça peut rester, on peut même s'humilier à la fin, hein, avoir un beau lit de mort, mais ce qu'on a fait a eu une influence sur nos enfants, et ça reste pour nos enfants. C'est ça qui est terrible. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Alors il n'a pas régné. Qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Il y a une révolution de palais. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit à sa place qui? Josias. Alors, vous avez maintenant l'histoire de Josias. Et sur ce Josias que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Josias, et quel âge avait-il? Vous avez remarqué l'âge de Josias? Il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Donc, il est mort à quel âge? 39 ans, dans sa 40e année. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, malgré que son père Amon lui avait donné un mauvais exemple. Mais lui, il a suivi l'humiliation de son grand-père. Manassé était le grand-père de Josias. Et il marcha dans les voies de David, son père. Vous voyez qu'on revient toujours à David, et on oublie le péché de David, mais les bonnes actions de David sont mises en lumière. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et alors, la 8e année de son règne, il avait quel âge? 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Vous voyez que, à l'âge de 16 ans, on peut déjà être engagé pour le Seigneur.
Et la 12e année, il avait quel âge? 20 ans. À 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? De servir au Seigneur. Mais il a commencé à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images de métal fondu. Il a suivi l'exemple de qui? De son arrière-grand-père qui s'appelait Ézéchias. Il a pris des bons exemples, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait dans la famille quelqu'un qui avait donné un exemple. Alors, on renversa devant lui les autels de Baal. Alors, vous avez lu toute cette histoire. Donc, il purifie la maison. Et verset 8. La 18e année de son règne, quel âge avait-il? 28 ans. Il est toujours dans l'action, fidèle. Après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Saphan et fils d'Atsalia pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Cette maison qu'avait déjà réparée Ézéchias en son temps, mais sous le temps de Manassé, il y avait eu vraiment des dégâts. Verset 9. Et ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et c'est là que, en réparant la maison, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ils ont trouvé le livre de la loi de Moïse en faisant les réparations. Verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Et c'est là que je voudrais vous montrer que un vrai réveil, il a pour base, j'ai dit, pour source Dieu, mais Dieu emploie d'abord quoi? La parole. Il emploie la parole. Un réveil qui n'est pas basé sur la parole, sur un retour à la parole, c'est un réveil éphémère. Alors, attention. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ilkija? Ilkija prit la parole et dit à Saphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Saphan. Saphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui était commandé jusqu'à ce jour. Ils ont amassé l'argent, etc. » qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ils ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Saphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Saphan le lut devant le roi. Alors, attitude du roi, en entendant la parole, qu'est-ce que la parole a pour effet sur vous quand vous la lisez? Eh bien oui, c'est ça. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, mais vous l'avez cette loi, vous pouvez lire ce livre de la loi, c'est la loi de Moïse. Le roi donna cet ordre à Ilkija, il déchira ses vêtements, une image en Orient de notre humiliation. Et il dit, verset 21, « Allez consulter l'Éternel pour moi, et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel. » Si vous lisez le chapitre 28 du Deutéronome, hein, vous voyez comment Dieu bénit son peuple s'il écoute, mais en même temps comment Dieu peut le châtier s'il n'écoute pas. Alors, saisi par ce chapitre 28, et 29 peut-être du Deutéronome, et qu'est-ce qu'il fait? Josias, il est jeune, il n'y a pas de prophète, parce qu'on est de nouveau dans un temps de déclin. Et il faut s'adresser à qui? À une femme. Donc vous voyez que Dieu se sert de la femme. Ilkija et ceux qui avaient été désignés par le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda. On compte cette prophétesse en Israël. Femme de Shalom, elle est mariée aussi, fille de Tokeba, fille de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait, il y a son adresse, à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Darby a dit dans le second quartier de la ville. Ce n'était pas le plus chic quartier. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit. Ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu peut parler par une femme, hein. Ne me dites pas le contraire. Mais ce n'est pas la femme qui se met en avant. On vient là consulter, notez bien cela. Il y a des détails dans l'Écriture. C'est toujours à son corps défendant. Elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je fais venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, oh que je voudrais que nos cœurs soient touchés dans cette retraite, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant les paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi. Vous voyez, il aurait pu dire, mais moi, je n'ai fait que le bien. J'ai essayé de tout redresser. Non, il se sent responsable. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré. Il a été un exemple pour le peuple. Hein. Pour que le peuple s'humilie, il faut que les grands s'humilient. Si les grands s'humiliaient dans l'église, les petits suivraient. Mais tant que les grands sont dans leur orgueil, comment voulez-vous que l'Église vive ? Moi j'ai entendu, dit l'Éternel, verset 28, « Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli dans la paix, en paix, dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » C'est pour ça que dans Ésaïe 57, il y a ce fameux verset qui dit que le juste périt et que personne ne le prend à cœur, et que les hommes de bonté sont recueillis sans que personne comprenne que Dieu les recueille de devant le mal. C'est beau ça. Et les malheurs viendraient sur les descendants de Josias. Mais les descendants de Josias ont su tout cela. Et alors, après cela, le roi a fait, il a donné l'exemple, et puis vous avez ce merveilleux réveil qui est raconté dans le chapitre 35 jusqu'au verset 19e, où ils ont célébré la Pâque. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Ils ont pu célébrer de nouveau la Pâque comme on devait la célébré selon la loi de Moïse. Tout le monde était à sa place, les chantres étaient à sa place. Ils ne chantaient pas du rock'n'roll, non. Mais c'était la louange au Seigneur. Il y avait les portiers à leur place, les lévites à leur place, et tout le monde était à sa place. Une unité vraiment merveilleuse pour célébrer la Pâque. C'était le réveil. Mais voilà. Verset 20, vous l'avez lu, après tout cela, que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, après ce réveil, bien voilà le pharaon Necho qui monte de l'Égypte pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate, mais une bataille où Juda n'avait rien à voir, rien à faire. Et qu'est-ce qui a piqué notre pauvre Josias? Josias marche à sa rencontre. Alors vous voyez que le Necho lui a envoyé des messagers pour lui dire, mais qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter, parce que Dieu peut parler aussi à des païens. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur que je ne te détruise. Vous pouvez même recevoir une parole du Seigneur par des gens étrangers. Et il ne faut pas mépriser cela. Mais Josias ne se détourna point de lui, et même alors, ça c'est toujours très dangereux, il s'est déguisé. Pour quelle raison?
pour ne pas être reconnu, hein, parce qu'on tire sur le roi. Il s'est déguisé pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Elle venait de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddon. Alors, quand moi je veux faire ma volonté et que je m'entête et que je me dis, mais moi je suis capable de faire quelque chose, les archers tiraient sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi, je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut. Il fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Puis évidemment, il avait laissé un bon souvenir. Mais tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias, parce qu'on l'avait aimé, ça avait été un bon roi. Et alors c'est là que vous avez notre Jérémie. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et ont établi une coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias, ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et Juda. Ses premières et ses dernières actions. Ça nous touche. Jeune converti, vos premières actions, elles sont écrites. Depuis des années, tout est écrit. Et aujourd'hui, quelles sont nos actions pour le Seigneur? Je n'ai qu'un jour pour t'aimer, ô Jésus. C'est aujourd'hui. Et alors voilà que Jérémie a parlé. Maintenant, si vous prenez le chapitre premier de Jérémie, puisque vous avez pu lire un petit peu dans Jérémie, mais je veux seulement souligner le premier verset. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin, la parole de l'Éternel lui fut adressée quand? Au temps de... Vous voyez comme ça devient intéressant de lire l'Ancien Testament? Vous rejoignez maintenant, vous y comprenez quelque chose, mais si vous lisez seulement Jérémie là, vous ne savez pas ce qu'il a fait. C'était au temps de Josias. Alors, vous replacez maintenant Jérémie dans son temps. Voilà pourquoi ces livres des chroniques des rois d'Israël ont une valeur et qu'il faudrait les étudier. Si j'avais encore des années à vivre et que je fasse encore beaucoup de camps, j'aimerais aussi qu'on étudie ces livres-là qui sont si négligés. On dit, oh, c'est de l'histoire, ça ne nous intéresse pas. Vous qui aimez faire des mots croisés, essayez justement de trouver la correspondance entre tout cela. C'est un passe-temps merveilleux, quoi. Et vous voyez, roi de Juda, la 13e année de son règne. Alors vous dites, maintenant je vous pose des questions d'arithmétique. Quel âge avait Josias quand Jérémie a entendu la parole de l'Éternel? Hein? 21 ans. Il avait 21 ans. C'est beau de voir ce lien. Alors, ils étaient jeunes ensemble. Ils ont été certainement amis. Et Josias a bénéficié du ministère de Jérémie. Ils se sont soutenus l'un l'autre. Un était le prophète, puis l'autre était le roi. C'est beau, un roi et un prophète. Comme Ésaïe était avec Ézéchias, eh bien, Jérémie était avec Josias. Mais non seulement Jérémie a été avec Josias, fils d'Amon, roi de Juda, mais il a été aussi au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque de Jérusalem, où Jérusalem fut emmenée en captivité. Alors, vous rejoignez le chapitre 36 des chroniques, où vous voyez que finalement, Jérusalem a été emmenée en captivité. Il y a eu, au chapitre 36, le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Mais Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois, pas beaucoup, hein. 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent. Ben, c'était le roi qui avait vaincu Josias. Hein? Et évidemment, un pays vaincu, il doit payer un tribut. Si Josias n'avait pas été attaqué, Néco, il n'y aurait pas eu cela. Mais voilà qu'il y a maintenant cela. Alors, verset 4, le roi d'Égypte, puisqu'il était le vainqueur, établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Éliakim, le frère de Joachaz. Joachaz, fils de Josias, a été mis de côté, mais Éliakim, le frère de Joachaz, qui était aussi fils de Josias, a été mis à la place. Il s'appelait Éliakim, mais on a changé son nom en Jéhoiakim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Celui qui avait été roi, on l'a emmené en Égypte, et puis le roi égyptien a mis son frère à sa place. Joachim avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Et alors il a eu l'influence de qui ? De Jérémie. N'est-ce pas, Jérémie était là, toujours vivant. Josias était mort à 40 ans, mais Jérémie était là. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait donc autrefois envoyé la délégation à Ézéchias pour voir tout ce qu'il y avait dans la maison du roi et dans le temple, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et les mit dans son palais à Babylone. Vous voyez, dans le palais des faux dieux, on a pris les ustensiles en or, en argent et tout cela, qui étaient dans le temple, c'est ce qu'avait montré Ézéchias, et on les a amenés à Babylone. Donc vous voyez que la prophétie s'était accompli. Et puis, ailleurs, il est dit qu'ils ont emmené aussi des jeunes. C'est dans Daniel, au chapitre 1er, que vous voyez ces liens qui unissent toutes les Écritures. Chapitre 1er de Daniel, je vous le cite. La troisième année du règne de Joachim, alors vous retrouvez votre Joachim, hein, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles, voyez, une partie de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Sinar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et puis c'est là qu'il a fait venir aussi des jeunes garçons sans défaut corporel, de la famille royale, d'une famille noble, pour servir dans son palais et être instruit dans la langue chaldéenne. Alors, vous voyez, Dieu avait dit par Jérémie, et on le verra, que s'il ne se repentait pas, Jérusalem serait détruite. Alors, il y a eu une première invasion où Nebuchadnezzar n'a pas tout pris. Il a pris, il a assiégé Jérusalem, il a vaincu Jérusalem, et il a emmené une certaine quantité des trésors du temple. Et puis, ils ont emmené des jeunes gens de la race royale, des gens intelligents. Et ils les ont instruits. C'est l'histoire de Daniel. Puis, ils auraient dû penser, mais nous allons maintenant nous repentir. Ils ne sont pas repentis. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Les restes de Jéhoiakim, verset 8, les abominations, je reviens dans les chroniques, hein, les abominations et ce qui se trouvait en lui,
Cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Jéhoiakim, son fils, régna à sa place. Lui avait été emmené avec des chaînes d'airain. Jéhoiakim avait 8 ans, c'était l'âge de qui ? De Josias, hein, lorsqu'il devint roi. Et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc vous voyez, hein, on peut faire du mal quand on est encore très jeune. Laissez-vous imprégner par ces paroles. Il n'y a pas d'âge pour faire le mal. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar, verset 10, le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Il y a de nouveau une seconde invasion et puis on emmène les ustensiles. Et il établit sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, le frère de Jéhoiakim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, mais il est roi par le pouvoir de qui ? De Nebuchadnezzar. Hein? Et il régna 11 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'humilia point devant qui ? Jérémie. Alors vous le retrouvez, notre Jérémie. Hein? Le prophète qui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu et il raidit son cou, endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel. Et c'est tout le message de Jérémie que vous allez comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps Jérémie ? Revenez, revenez à moi, dit l'Éternel. Vous m'avez tourné le dos, vous avez abandonné la source des eaux vives pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Verset 14. Tous les chefs, les sacrificateurs, le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Voyez que Dieu a des sentiments de compassion. Il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ça ne vous fait pas penser à Jésus, hein? J'ai encore un fils. Il leur avait envoyé les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Et ils allaient mettre le comble à la mesure de leur père en tuant le fils de Dieu. Ils méprisèrent les paroles, ils se rallièrent de ces prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel soit à son comble et devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens, et le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Vous voyez que la conduite d'un roi a une influence sur tout le peuple, sur les vieillards, sur toutes les générations, sur les gens d'âge mûr, sur les adolescents et même sur les petits-enfants. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu. Alors maintenant, c'est vidé. Grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi et de ses chefs, ils brûlèrent la maison de Dieu, cette maison dont Jérémie leur avait dit, ne mettez pas, vous avez lu le chapitre 7 de Jérémie, qu'est-ce qu'il leur disait ? Ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonge, parce qu'il y avait des prophètes qui disaient, soyez tranquille, il ne peut rien arriver à Jérusalem. Parce que nous avons la maison de l'Éternel. Et vous voyez au chapitre 7 de Jérémie, la prédication de Jérémie, le message qu'il leur apportait à la porte du temple. Verset 2. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes. Parce qu'on pratiquait, on allait, pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies, vous pouvez compter toutes les exhortations, et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans ce pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober ? Tuer ? Commettre adultère ? Jurer faussement ? Offrir de l'encens à Baal ? Après, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, que vous pourriez mettre toute la liste, hein ? Devenir homosexuel, lesbienne, tout ce que vous voulez, puis tout le reste. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Je vous l'ai dit, qu'est-ce qui m'a empêché d'aller prêcher à l'église de Jésus à Montréal, il y a 2 ans, eh bien, c'est que le congrès des homosexuels de toute l'Amérique du Nord avait lieu à Montréal, et qu'un évêque avait été d'accord de célébrer l'Eucharistie pour les gays et les lesbiennes de toute l'Amérique du Nord qui étaient réunis là. Ah, non, ça, je ne pouvais plus annoncer l'Évangile. Et j'aurais aimé annoncer l'Évangile. Je peux annoncer l'Évangile aux gays, aux lesbiennes, pour les amener au Seigneur. Mais célébrer une Eucharistie, pour eux, c'est-à-dire leur donner la communion, c'était tout ce qu'ils voulaient, eux, avoir l'approbation de l'Église, de l'Évêque. Pour justifier que c'est juste, si vous voulez vous livrer à la sodomie, alléluia. Ben non. Comprenez-vous la souffrance qu'il y a dans une position comme la mienne ? Il y a le désir d'apporter l'Évangile à toutes les âmes, mais à cause de certaines iniquités qui se font, et du manque de discernement de conducteurs spirituels qui ne voient pas que c'est approuver le mal. Et quand on approuve le mal, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a eu un vol d'un bijoutier, hein, et il disait, tant qu'il y a des receleurs, il y aura des voleurs. Vous l'avez entendu ça, hein? Et c'est vrai de vrai. Puisqu'il y a des gens qui acceptent de racheter ce qui a été volé pour le revendre, donc le receleur est aussi coupable que le voleur. Donc il y a une unité là-dedans. Et c'est là qu'il faut savoir dire non. Comprenez-vous? Et c'est...